Aujourd'hui, notre lecture de l'Évangile selon Luc nous ouvre à la parabole de Jésus qui raconte l'invitation à un grand festin. Cette parabole commence bien. Elle montre que Dieu nous invite à une grande fête et nous envoie inviter nos amis à cette fête. Mais la fin de la parabole est bizarre et un peu inquiétante. Mais aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. Est-ce comme cela que l'on doit retenir et vivre cette période de carême? On peut être choqué par ce qui semble l'exclusion de ceux qui n'ont pas répondu à l'appel, mais surtout étonné par le terme d'obliger les invités à entrer. Ce terme peut être rapproché du problème des sans-domicile fixe qui ne veulent pas aller dans les refuges malgré les incitations du SAMU social et les risques dus au grand froid. Faut-il les obliger? Et qu'entend-on alors par obliger? Les paraboles de Jésus sont souvent comme des énigmes. Parce que Jésus essaye de réveiller notre intelligence, il espère que nous nous posions des questions et que nous puissions ainsi évoluer dans notre façon de concevoir Dieu et la vie. Ainsi, à la fin, le maître dit au serviteur « Ce que tu trouveras, oblige-les d'entrer. » Dans un autre contexte que dans l'Évangile, dans une autre bouche que celle de Jésus-Christ, ces paroles seraient tout à fait normales. La contrainte et la menace sont des outils souvent très efficaces. Dans le domaine politique, économique, social, et même dans le domaine religieux, la contrainte et la menace marchent assez bien. Mais Dieu n'est pas comme ça, et donc Jésus n'est pas comme ça. Quand des personnes ne l'écoutent pas, quand elles le refusent, quand des hommes le menacent, même quand ils le tuent pour ses idées, Jésus n'envoie pas la foudre. Au contraire, il prie pour que Dieu leur pardonne. Il dit que Dieu cherche vraiment à faire du bien à ses ennemis. Dans l'Évangile de Luc, Jésus nous dit même que Dieu est bon vraiment pour les ingrats et les méchants. Dans ce contexte, comment comprendre le fameux « oblige-les d'entrer » ? Saint Augustin tire de ce verset quelque chose d'épouvantable. Il soutient que, oui, il est juste d'user de violence et de persécution pour convaincre les hérétiques de revenir dans l'Église. Cette interprétation malheureuse va avoir bien des conséquences dans l'histoire. Et au XVIIe siècle, le célèbre prédicateur Bossuet reprend ce commentaire d'Augustin et convainc ainsi le roi Louis XIV de révoquer l'édit de Nantes. Et ainsi est lancée une terrible persécution contre les protestants. Le philosophe protestant Pierre Bayle répond à cette action du roi en réfutant les arguments d'Augustin, disant qu'il est impossible de comprendre cette parabole ainsi, car Dieu est amour. Ce fils de pasteur remarque très justement qu'avec de la violence, on peut forcer quelqu'un à faire quelque chose, mais certainement pas le forcer à aimer. Or, c'est ça le projet de Dieu en Christ, que nous ayons un cœur qui aime enfin véritablement un peu. La contrainte et les menaces ne font pas aimer plus, au contraire, elles nous font avoir peur, et cette peur nous fait nous méfier de Dieu, de moins en moins l'aimer à cœur ouvert. Cette peur nous rend égoïstes pour chercher à nous protéger nous-mêmes. Or, le projet de Dieu, c'est l'amour, c'est l'ouverture du cœur, c'est que nous trouvions du plaisir dans le fait de voir les autres un peu plus heureux, de voir les autres sauvés aussi. Alors, oui, comment faut-il lire cette parabole? Le maître de maison, c'est Dieu. Il envoie son serviteur appeler une multitude de personnes. Ce serviteur, bien sûr, c'était déjà les prophètes, c'est aussi le Christ. Et ce serviteur qui part annoncer l'amour de Dieu, ce peut être chacun de nous quand nous parlons à un ami. C'est la grand-mère qui parle à sa petite fille. C'est la fille qui dit à sa mère l'intérêt que Dieu lui porte. Ce serviteur qui appelle chacun de nous, c'est aussi cette étincelle de Dieu que nous avons au-dedans de nous, une étincelle d'intelligence, une étincelle de cœur, une étincelle de foi et d'espérance. Le bon dîner, de fait, évoque le paradis, certes, mais dans la Bible, le royaume de Dieu, le paradis et la vie éternelle, ces trois choses sont une seule réalité. Une vraie vie pour aujourd'hui, en ce monde et pour toujours, comme dans cette parabole, c'est aujourd'hui que nous sommes invités à nous réjouir de ce que Dieu a préparé pour nous. Trois fois le serviteur devra sortir et sortir encore pour inviter chacun à la vie. Comprenons bien que nous sommes à la fois et ce serviteur et celui qui est invité. La première fois, le serviteur a seulement à dire « Venez car tout est prêt ». Tout est prêt pour vous. Dieu vous a choisi. Dieu, le grand Dieu de l'univers, s'intéresse à nous et a tout préparé pour nous. Il ne manque que nous. Il y a là une annonce fondamentale et bouleversante. Nous sommes dignes d'être aimés. Nous sommes dignes d'être nourris. Dignes que Dieu et l'humanité entière fassent une fête en notre honneur. Nous ne le savons peut-être pas, nous ne voyons peut-être pas comment ni que pourquoi, mais notre existence a du sens, elle vaut la peine. Nous sommes attendus par Dieu. L'Évangile nous apprend cela, et Dieu nous envoie comme des apôtres vers une ou des personnes qu'il nous confie pour que nous leur disions combien elles sont importantes, spéciales, combien elles comptent pour Dieu. De qui est-il question quand Jésus parle des personnes montrées au début de la parabole et qui se sont excusées? Et c'est vrai qu'elles ne pouvaient pas. La première s'occupe de son champ. C'est le travail du monde. C'est bien. La seconde s'occupe à labourer avec ses 5 paires de bœufs. L'exagération du chiffre montre bien qu'il s'agit là d'un symbole. Ce chiffre 5 évoque la pratique des 5 livres de la loi de Moïse. Cela évoque un comportement droit, une bonne pratique religieuse, une bonne morale de vie. C'est évidemment bien. La troisième vient de se marier. C'est très bien aussi. Il y a dans l'amour entre les humains un lieu de bonheur et de réconciliation. Il ne s'agit donc pas de telle ou telle personne qui serait exclue du paradis. Il s'agit de 3 bonnes choses, 3 excellentes dimensions de notre vie en ce monde, mais en elle-même, aucune des 3 ne monte au ciel. Il faut ce quelque chose de plus qui est de l'ordre de la foi, de l'espérance et de l'amour. Cette première annonce, c'est celle de l'amour de Dieu, celle de son amour gratuit qui nous appelle. Le paradis nous est donc grand ouvert. Il suffit pour y entrer d'aller vers Dieu. Mais quand même, cela reste sélectif. Aller vers Dieu, et si l'on n'a pas la force, si l'on ne sait pas, si nous avons encore des doutes, un reste de crainte, trop d'occupation, pas d'inquiétude, nous dit ici Jésus. Vous n'êtes pas certain d'y arriver? C'est normal. Souvent, la simple annonce de la grâce ne suffit pas. La simple sagesse, la simple connaissance de notre dignité ne suffisent pas. Nous avons besoin d'un peu plus d'aide de Dieu que cela pour avancer. Dieu envoie une deuxième fois son serviteur. Il va lui falloir faire plus que d'appeler. Il n'y a pas trop de pauvres pour Dieu et cette fois-ci le serviteur va devoir nous conduire. Il va dans les ruelles et dans les chemins. Si l'on est dans le noir, si l'on n'arrive pas à avancer, si l'on est nul. Dieu nous aidera, nous guidera, nous conduira, nous soutiendra, nous portera. Mais finalement, chacun, malgré ses faiblesses, pourra, s'il le désire, participer au banquet. Nous n'avons donc pas à mériter le paradis, il suffit d'accepter d'y aller. Et si nous n'avons pas la force, il suffit de vouloir y aller. Mais ça encore en écarte certains. Si nous refusons d'aimer Dieu, si nous fermons à son aide, que faire? Vous croyez que Dieu va nous abandonner? Ce serait mal le connaître, car celui qui aime n'abandonne pas son amour quand il va mal. Dieu envoie encore une fois son serviteur avec la mission de chercher ce que l'on peut appeler les plus pauvres des plus pauvres, ceux qui sont comme écroulés en dehors de tout chemin, ceux qui n'ont même plus la force de vouloir le bien. Va vers eux, dit Dieu, et oblige-les d'entrer. Dieu n'impose pas à l'homme d'avoir la foi, c'est impossible. On ne peut imposer à quelqu'un d'aimer par la force. On ne peut pas forcer quelqu'un à espérer, à être libre. Alors comment est-ce que quelqu'un serait finalement obligé d'accepter de communier avec Dieu? Eh bien, Jésus nous explique. C'est par l'amour et la patience que Dieu nous sauve et nous sauvera tous. Jésus répond à cette question par sa vie tout entière. Il n'a aucun doute sur l'amour de Dieu. Il l'illustre souvent par celui d'un berger. Jésus nous a dit qu'il cherche la dernière brebis perdue jusqu'à ce qu'il la trouve, et que lorsqu'il l'a trouvée, il la porte si elle est trop faible, il la sauve et il peut enfin se réjouir. Tant qu'il manquera une seule personne à sauver, ce berger, à l'image du Dieu Père, ne cessera de chercher. Mais, et c'est clair, les paroles de Jésus affirment avec certitude que l'amour de Dieu finira par trouver chacun et chacune. Il ajoute même « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus lui-même acceptera d'aller au bout de son amour pour nous jusqu'à la crucifixion. Il fait ainsi de chacun de nous ses obligés. Alors même le plus réticent peut comprendre que Dieu le cherche, peut se savoir retrouvé, invité, conduit. Il ne peut à la fin que se sentir obligé. Mais alors si Dieu finit par recevoir tout le monde, certains diraient n'importe qui dans son royaume, à quoi ça sert d'avoir la foi? À quoi ça sert de lire la Bible, de prier, d'aller au culte? Jésus, le rabbi, répondrait par une autre question. À quoi ça sert d'aller voir une mère qui vous aime et que vous aimez? À quoi ça sert d'aller voir l'ami, son meilleur ami? Si nous n'allions pas les voir, ils nous aimeraient quand même et nous les aimerions toujours. C'est cela l'amour, c'est d'aimer sans condition. Or, c'est d'un amour vrai que Dieu nous aime et le Christ en est la preuve vivante. Son royaume n'est pas à gagner. Nous y avons notre place, celle d'un enfant bien-aimé. Lui nous a déjà reçus. Il nous envoie dans le monde pour être comme des étincelles de foi, d'espérance et d'amour pour quelques autres. Mais que penser du final? Aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. Il m'a fallu le relire à l'éclairage de ma vie. J'ai été en quelque sorte obligé, par amour, à entrer dans le projet de Dieu pour moi. Je suis venu dans ce temple, j'y ai été baptisé, et les sœurs et les frères que Jésus m'a donnés m'ont mis à la place que j'occupe aujourd'hui, pour le temps de ce culte. Tous les hommes sont invités. Simplement, ceux qui sont trop occupés pour un temps, ceux qui sont un temps éloignés, permettent au message d'atteindre ceux et celles qui pouvaient s'imaginer hors du projet de Dieu. Tout est prêt, Dieu invite, Dieu nous fait conduire, Jésus, par amour, nous fait ses obligés. Il ne nous contraint pas, Il respecte notre décision avec les risques inhérents pour nous, comme pour les sans domicile fixe dont je parlais tout à l'heure. Et sachons que le temps de Dieu n'est pas le nôtre et il nous attend toujours. Alors, frères et sœurs, comprenons que ce temps de carême est nécessaire pour nous préparer à la passion de Jésus-Christ et aussi à sa résurrection. Ces 40 jours ne sont pas de trop pour que l'Esprit Saint nous éclaire sur ce mystère de l'amour sans limite de Dieu et de sa patience pour nous. Ne nous privons pas nous-mêmes d'aller goûter au dîner du Maître. Ne résistons pas à l'appel de venir, d'être conduit ou même d'être obligé par amour. Il est temps maintenant d'entrer et de rester dans cette fête, c'est-à-dire l'alliance où Dieu, par Jésus-Christ, nous invite. Amen.